BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, Damien Viel, directeur général de Twitter en France, viendra faire le point sur la stratégie du groupe alors que les réseaux sociaux sont sous le feu des critiques depuis l'affaire Facebook. Et puis avec Jean-Luc Groner, directeur général de Soulogo, et Benjamin Sagnal, concepteur rédacteur de Publicis Conseil, on fera le point sur l'usage de la langue française dans la publicité. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Agnès Mossina, directrice marketing et e-business des Croisières Ponant. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et Marie Valogne pour les news, comme toutes les semaines. Bonjour Marie.
Bonjour Aurélie.
Alors on commence avec une nouvelle campagne, alors de marque, pour Citroën.
L'agence Traction signe une belle publicité pour mettre en valeur non pas la dernière voiture Citroën, mais la marque en général. On suit le voyage d'un jeune autostoppeur. Il parcourt des kilomètres à différentes époques. Son périple commence il y a quelques années dans une 2CV. Il se poursuit dans une Visa, puis dans la CX. L'idée ici, c'est bien sûr de mettre en avant la pérennité de la marque dans le temps. Le film sera diffusé dans le monde à partir du 4 avril.
Allez, autre publicité qui nous a interpellés, c'est celle de la Caisse d'épargne.
Et on se retrouve cette fois-ci en 1818 avec un jeune homme qui nous fait vivre la révolution industrielle, les premières usines et les salaires qui vont avec et qui donne naissance à la Caisse d'épargne. Là, saut dans le temps, la banque a 200 ans aujourd'hui et elle reste fidèle à son slogan « Être utile », un très beau film en costume d'époque signé Altman Pacro.
Qui est diffusé donc à partir de lundi. Enfin, Speedy nous a dévoilé une très longue pub pour ses 40 ans.
Et c'est une pub au format vraiment très très long, près de 5 minutes 30 et l'histoire est plutôt alambiquée. Pour la réalisation, l'agence Les Gros Mots s'est offert les services d'Olivier Marchal, ce qui donne un film en mode thriller où il est question de clowns, de braquage de banque, d'histoire d'amour, tout ça dans le décor d'un garage Speedy. Court-métrage sans slogan publicitaire qui veut mettre en avant ceux qui travaillent dans les garages.
Frédéric, dans les publicités que nous propose aujourd'hui Marie, dans ses créations, c'est minimum 1 minute 30, maximum 5 minutes 23, mais qu'est-ce qui leur prend ?
Il leur prend que l'avantage du web, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, parce qu'à la télévision, le temps, c'est de l'argent.
Ouais.
Donc là, maintenant, les agences, les créatifs se lâchent au risque de parfois un petit peu perdre le fil de leurs histoires. Ça arrive, ouais.
Merci Frédéric, merci Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
L'invité de la semaine, c'est Damien Viel, directeur général de Twitter France. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Après le scandale des données personnelles qu'a connu Facebook cette semaine, non pas Twitter justement, moi je voulais savoir quelle était la position de Twitter sur les données personnelles, parce que vraiment c'est un sujet qui monte beaucoup en ce moment, on en parlait avec Frédéric. Quelle est votre position à vous ?
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors c'est un sujet très important, vous l'imaginez. Twitter a une caractéristique essentielle, c'est d'être une plateforme publique, une plateforme ouverte. Lorsque vous écrivez un tweet, vous le destinez finalement au monde entier, et c'est comme ça qu'il est vu et lu par le monde entier. Il y a un corpus de 400 à 500 millions de tweets qui sont écrits chaque jour, et donc lus. Et donc nos obligations sont un petit peu différentes des autres plateformes qui n'ont pas cette nature ouverte qu'est Twitter. Alors bien entendu, on a aussi mené une enquête interne pour savoir comment est-ce que les données étaient protégées, et les données personnelles de nos utilisateurs ne sont pas accessibles.
Pas du tout.
Non.
Jamais.
Écoutez, on a mené une enquête, elles ne le sont pas aujourd'hui.
Alors, nous, ce qu'on a, on a vu, c'est que vous annonciez, enfin Twitter annonçait au quatrième trimestre un résultat pub de 2,1 milliards de dollars, dont 333 millions provient de la vente de données. Donc c'est quand même aussi un business, c'est-à-dire que...
Je vous l'ai dit, on a un corpus de 300 à 400, à 500 millions de tweets même qui sont écrits chaque mois. Les entreprises aujourd'hui l'utilisent dans un nombre de domaines incalculable, et je pense qu'on en est qu'au début, quand on est capable aujourd'hui, dans des domaines logistiques, dans des domaines de risk management et d'asset management, dans des domaines marketing, d'utiliser cette donnée pour écouter, pour savoir ce qui est dit. C'est le rôle et la fonction de Twitter d'être une plateforme mondiale d'information d'information en direct. Et de fait, quand on est une plateforme mondiale d'information en direct, on pourvoit également en insight tout un tas d'industries dont, effectivement, l'industrie marketing, c'est une réalité.
D'accord.
Mais ces données sont publiques.
Une plateforme d'opinion aussi.
Exactement. Twitter est une plateforme d'opinion. Depuis 2 ans, le travail extraordinaire qui nous conduit aujourd'hui à pouvoir devenir une plateforme rentable, c'est d'être une plateforme qui a su effectivement affirmer sa position dans le monde, qui est d'être une plateforme mondiale d'information en direct à disposition des individus, pour dire finalement dans le monde ce qui est en train de se passer et ce dont les gens parlent.
Est-ce que vous n'avez pas peur quand même qu'il y ait une certaine défiance générale vis-à-vis des réseaux sociaux et que finalement vous soyez mis dans le même sac que Facebook par exemple ?
Alors Twitter devient une plateforme mondiale d'information et donc avec un certain nombre d'obligations, ces obligations vis-à-vis de l'industrie du journalisme, des médias, de nos utilisateurs, et de ce point de vue-là, nous avons toujours été extrêmement transparents sur le fait que nous sommes une plateforme qui a des règles et que ces règles elles s'appliquent chez nous et que ces règles elles sont bâties sur le caractère essentiel de Twitter, qui est d'être une plateforme libre, une plateforme au service de ses utilisateurs et live. Et finalement, quand on regarde nos résultats de rentabilité aujourd'hui, ils ont une signification importante, c'est qu'on va dans la bonne direction, celle d'une croissance des utilisateurs, mais elle nous permet aussi un élément fondamental, c'est de rester une plateforme libre, une plateforme indépendante au service des médias et du journalisme indépendant. Et ça, c'est un élément important pour nous, qui est plutôt la perspective que l'on regarde aujourd'hui.
Alors, Raoul Zizi, vous parliez de rentabilité, c'est vrai que pour la première fois de son histoire, Twitter est arrivé dans le vert au quatrième trimestre. Vous avez gagné 4%, je crois, d'utilisateurs en 2017 par rapport à 2016. Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que ça aille beaucoup plus vite parce que vous avez un très, très grand ambassadeur qui s'appelle Donald Trump. Pourquoi ça décolle pas plus que ça ?
Alors, nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est plutôt les utilisateurs quotidiens de la plateforme. Le fait que les utilisateurs reviennent chaque jour et utilisent de plus en plus la plateforme, ça c'est un élément fondamental qu'on regarde. Et c'est des chiffres qui sont bien au-delà que les chiffres que vous mentionnez. On affiche le 5e trimestre consécutif d'une évolution à 2 chiffres du nombre d'utilisateurs quotidiens. Donc ça c'est un élément extrêmement important, c'est qu'on nous utilise de plus en plus souvent et de plus en plus différemment. La vidéo par exemple est en train d'envahir Twitter. Le trafic vidéo a doublé en un an sur Twitter, au-delà des 140 et 280 caractères. Aujourd'hui c'est une multitude de formats, des formats vidéo, des formats live qui sont en train effectivement de dominer la plateforme et d'avoir un usage quotidien qui est en permanente augmentation, et c'est ça qu'on s'attache plutôt à regarder. Donc l'augmentation, l'accélération, elle se produit dans un usage quotidien.
Et alors c'est qui le profil type de l'utilisateur de Twitter? Est-ce qu'il ressemble, aux Français?
Alors vous touchez du doigt justement la success story de Twitter en France. Twitter s'est construit en France sur des grands débats de société, sur une proximité très forte avec l'écosystème des médias, des journalistes, des hommes politiques. Mais maintenant, bien au-delà, la proximité, par exemple, en ce moment, avec les grands dirigeants d'entreprise, hein, un patron du CAC 40 sur 2 est sur Twitter, avec cette prise de conscience que l'engagement des chefs d'entreprise et l'engagement des entreprises se passe sur une plateforme publique, l'arrivée d'Emmanuel Faber, l'arrivée de Thomas Buberl, l'arrivée de Frédéric Oudéa, de Patrick Pouyanné, tous ces patrons communiquent beaucoup sur Twitter.
Parce que vous communiquez pas beaucoup sur Twitter.
C'est votre point de vue. Moi, j'y suis en tout cas très souvent. En fait, tous ces patrons communiquent beaucoup sur Twitter parce qu'ils y communiquent de manière complètement nouvelle, d'une manière transparente. Parce qu'on est en train, avec eux, d'observer que la transparence crée de la confiance et que la confiance crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, votre question, elle est fondamentale parce qu'en France, on a un modèle finalement extrêmement vertueux d'avoir à la fois une très grande proximité avec l'univers des médias, avec l'univers des journalistes, mais aussi une très grande proximité avec l'univers des marques, avec l'univers des entreprises. Et tout ça, finalement, nous donne une base d'utilisateurs de Twitter qui est à la fois très vaste et très large, mais en plus de qualité. Un CSP plus sur 2 en France utilise Twitter. C'est pas rien. Et avec des utilisateurs qui ont entre 25 et 49 ans, mais qui ont tendance à rajeunir aussi.
25-49 ans ?
25-49 ans, c'est le cœur de cible de l'utilisateur.
Moi, je pensais que c'était plus âgé.
Eh bien, il est même de moins en moins âgé. D'accord. Si on regarde, effectivement, l'usage par les plus jeunes. Aujourd'hui, la partie des 15-24 ans est une partie en forte croissance chez nous. C'est le fait de l'arrivée de Periscope à l'intérieur des fonctionnalités live de Twitter. C'est le fait de beaucoup de digitaux natifs, je pense à Cyprien par exemple, qui a 10 millions d'abonnés sur sa chaîne, mais qui a 8 millions de followers sur Twitter. Ce sont des proximités que les gens mesurent pas forcément. Et puis il y a un nouveau phénomène qui attire chez nous une population beaucoup plus jeune, c'est la présence de cette fameuse génération Z. Vous la connaissez cette génération-là? C'est la génération qui va demander des comptes aux entreprises, aux acteurs publics, pour savoir comment sont fabriqués les produits, qui est cette entreprise pour laquelle je m'apprête à travailler. Et ils sont sur Twitter et ils l'ont même élu la première plateforme sur laquelle ils vont venir chercher de l'information sur les produits qu'ils consomment et les entreprises pour lesquelles ils veulent travailler. Twitter aujourd'hui, c'est la première plateforme utilisée dans les entreprises de plus de 100 salariés. Et parmi les moteurs d'utilisation par les chefs d'entreprise, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi des objets de communication interne et interne et externe.
Et ça, on en parle souvent. C'est vrai qu'on a eu plusieurs témoignages, effectivement, d'entreprises qui nous ont dit, finalement, Twitter est presque un meilleur moyen de communication interne que les canaux traditionnels.
Ils sont tous complémentaires. Ce qu'on fait sur Twitter, quand on est une entreprise engagée, ça se voit à l'extérieur, ça se voit dans des écosystèmes très larges, ça se voit dans beaucoup de pays. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui les entreprises françaises sont en train d'accélérer de manière formidable sur Twitter, sur des objets de communication corporate, dirigeants, execs, marque employeur, communication financière. Regardez ce qu'a fait Peugeot récemment. Sur tous les domaines de publicité qui font vivre Twitter et branding. Et là, on voit qu'effectivement, le marché de la publicité vidéo est en train de considérablement faire accélérer Twitter dans les domaines publicitaires. Et puis, le dernier élément, c'est ce que les Américains appellent le consumer care, parce que Twitter reste une plateforme essentielle d'interaction avec ses clients. Une étude a été publiée par Sprinklr il y a plus d'un an qui démontre que 80% des questions mondiales posées aux marques sont posées sur Twitter. Pourquoi ? Quand vous voulez interpeller une marque, quand vous voulez interpeller une entreprise, quand vous voulez interpeller un service public ou un homme public, vous le faites sur Twitter parce que vous êtes sûr que c'est lui et vous êtes sûr que finalement vous lui mettez un peu la pression sur la qualité de sa réponse et sur la rapidité de sa réponse et aussi peut-être sur son empathie.
Merci beaucoup Damien Viel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Twitter en France.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Ah bah tiens, on va continuer de parler de réseaux sociaux avec le cas Facebook, Simon Tenenbaum. Bonjour Simon, c'est vrai qu'on a eu donc ces derniers temps l'affaire Cambridge Analytica qui fait vaciller Facebook avec les demandes d'explication des autorités, les appels à se désinscrire de Facebook, les régulateurs qui s'en mêlent, les excuses de Mark Zuckerberg, les mesures annoncées de Facebook. Mais finalement, pas de véritable panique du côté des annonceurs alors qu'on aurait pu s'attendre peut-être un peu plus.
Bah oui, c'est assez surprenant. Hein, les annonceurs, c'est ceux qui font vivre Facebook avec leurs investissements. On pensait qu'ils allaient s'indigner, pourquoi pas lancer des appels au boycott. Eh bien, en fait, il s'est pas passé grand-chose, faut être honnête. Hein. On a eu, certes, l'association des annonceurs britanniques d'abord, puis l'union des annonceurs en France qui ont demandé de rencontrer des responsables de Facebook pour demander des explications. La rencontre a eu lieu. L'UDA a dit, après cette rencontre, qu'elle appelait Facebook à poursuivre ses efforts de transparence. Voilà, Facebook, de son côté, a été très actif hein, pour essayer de rassurer toutes les grandes agences de publicité. On a quelques très rares annonceurs qui ont mis en pause leurs investissements, mais vraiment une poignée. On parle de Commerzbank, la banque allemande, de Sonos, fabricant américain d'enceintes. Mais franchement, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Finalement, on voit que les annonceurs sont vraiment moins à l'offensive sur cette question des données personnelles que sur d'autres questions qui les concernent plus dans cet univers de la pub en ligne. On pense évidemment à tout ce qui est autour de la brand safety, la fiabilité des audiences, la transparence dans la chaîne des investissements, même dans la lutte contre les fake news. Mais voilà, il faut pas oublier une chose, les données personnelles, c'est le cœur du réacteur de la pub en ligne. Ça concerne autant Facebook que les annonceurs. Il faut pas se tromper, si Facebook est devenu aussi puissant dans la pub en ligne, c'est parce que les annonceurs reconnaissent son efficacité dans le ciblage. Et Facebook est incontournable pour être efficace quand on fait de la pub sur Internet.
Mais ça va quand même avoir des conséquences sur le business de Facebook, non, cette affaire ?
La question a été posée cette semaine à Martin Sorrell, le patron de WPP. Il a dit qu'il était un peu tôt pour le savoir, mais il a franchement pas été très négatif dans sa réponse. Il a notamment rappelé l'histoire du boycott des annonceurs sur YouTube au moment où il y a eu ces vidéos terroristes. Il dit que ça a eu un impact pendant quelques mois et puis ensuite les investissements sont revenus à la normale. Martin Sorrell, il traite maintenant Facebook et Google de partenaires et d'amis. Il pense en gros que ce sont des groupes qui n'étaient pas forcément toujours très responsables avant, mais qui sont en train de devenir responsables sur l'ensemble de ces questions. En fait, il y a deux points qu'il va falloir surveiller pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Déjà, est-ce que les mesures que Facebook a annoncées pour tenter de calmer l'incendie vont avoir un impact sur l'efficacité de ces outils publicitaires ? En gros, il y a le contrôle accru des utilisateurs sur les données qu'ils partagent et les restrictions sur qui peut aspirer ces données. mais pour l'instant, Facebook n'a pas touché à certains de ses outils publicitaires les plus efficaces. L'autre point crucial, c'est évidemment de voir s'il y a une fuite des abonnés de Facebook. Ça, évidemment, ça aurait un impact. Mais si on regarde un peu les prévisions, voilà, qu'ont fait certains cabinets ces dernières semaines, beaucoup anticipaient déjà un recul de la part de marché de Facebook sur le marché de la pub en ligne, Facebook qui est déjà très haut, et au profit de qui irait ce transfert ? Essentiellement au profit d'Instagram. Donc pour Facebook, dans tous les cas, ça pourrait être un jeu à somme nulle. Oui.
Merci Simon Tenenbaum.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le Zoom du jour autour de l'usage de la langue française dans la publicité. Jean-Luc Groner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Sous le Logo, société de veille des signatures des marques, qui est à l'origine notamment de l'Observatoire des slogans. Et puis Benjamin Sagnal, bonjour.
Bonjour.
Concepteur, rédacteur chez Publicis Conseil. Alors on sort de la semaine, hein, Frédéric, de la francophonie. Et c'est donc Publicis Conseil qui en a fait la promotion avec cette campagne qui, pour ceux qui nous écoutent à la radio, met en scène un livreur de pizza.
Les tourtes chaudes, madame.
Cinquième étage, je vous décèle le loquet.
C'est pas trop tôt, j'ai la panse dans les talons.
Je sollicite votre indulgence pour mon contretemps, c'est ma monture, elle a eu grand-peine à s'éveiller. Et voici, une fungus fromage, deux rustiques jambonneaux et trois breuvages pétillants.
Tenez, gardez le surplus numéraire.
Avec toute ma reconnaissance.
Ah, attendez, est-ce que je peux avoir quelques sauces en sus ?
Bien sûr, veuillez m'excuser, je les avais omises.
La progéniture ! Les tourtes chaudes sont arrivées!
Est-ce que, quand même, je me pose la question, cette publicité, c'est pas un aveu d'échec sur la capacité qu'on a aujourd'hui à faire des pubs en vraie langue française, Benjamin Sagnal?
Oh non, c'était juste un clin d'œil pour essayer de montrer que la langue française est un peu plus riche et qu'on peut s'amuser avec, en fait.
Et on le fait pas assez, ça, aujourd'hui?
On le fait, mais c'est vrai qu'on est beaucoup avec. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, beaucoup de plus en plus de commentaires à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, et quand on lit les commentaires, on n'a pas l'impression que les gens s'amusent beaucoup. Au contraire, on est un peu toujours effrayé par la pauvreté, mais
c'est générationnel ou
difficile à lire, on va dire.
Frédéric.
Alors, je crois, Jean-Luc Groner, que par contre, il me semble que l'observatoire justement des signatures montre que l'anglais a plutôt tendance un peu à régresser. Mais est-ce que dans les slogans et les signatures de marque, mais est-ce que c'est une vraie tendance ? Moi, j'ai pas l'impression. Il me semble qu'il y a toujours plus d'anglais, mais je me trompe ?
Non, vous trompez pas. Depuis la globalisation, le basculement vers l'anglais, ou plutôt la pénétration de l'anglais dans les slogans, est un petit peu continue.
Ouais.
C'est vrai que cette année, en 2017, puisque nous portons notre regard sur l'année dernière, il y a eu, pour la première fois, une petite inclinaison. Alors, sur le schéma où on voit la courbe, la pente est un peu raide, mais que l'échelle est sans doute aussi un peu petite. On aurait fait une échelle à 100%, la pente aurait été plus douce. Il faut se méfier, vous avez raison, c'est un petit peu comme les courbes du chômage. On peut pas juger parce que en un mois, il y a une petite baisse, on a la fameuse inflexion. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que la durée de vie d'une signature de marque, c'est de l'ordre de 4 ans et demi. Donc c'est plutôt au bout de 3 ans qu'on verra si, à nouveau, je dirais, la courbe continue presque irrémédiablement à monter. D'ailleurs, si on fait le calcul, on est à peu près à 18% là pour les signatures de marque. Faites le calcul, il reste 72%, donc ça fait à peu près 30 ans. Je ne crois pas que dans 30 ans, toutes les signatures de marque seront en anglais. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un plafond de verre et tout, sans doute. Voilà.
Et en tant que concepteur-rédacteur, comment on fait face à cet usage d'anglais ? Est-ce que c'est les marques qui vous demandent d'utiliser des mots en anglais ? Est-ce que vous êtes obligé de lutter comme ça pour mettre des choses plus en français ?
Non, les marques sont plutôt pour l'utilisation du français. C'est-à-dire que dès qu'on peut utiliser le français, je crois que ça rassure tout le monde, et en tout cas pour la France. Et nous, L'exercice est parfois difficile. Il y a certains mots qui sont difciles à utiliser en français, mais c'est le plaisir d'essayer d'arriver à contourner tout ça. Et j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est vrai que quand on travaille sur des marques digitales ou
technologiques,
ouais. C'est plus difficile parfois. J'essaie de trouver
un
exemple.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le mot hashtag était sur votre podium cette année.
Oui, enfin, hashtag, c'est presque au-delà du français et de l'anglais. C'est presque un signe digital. Ouais. C'est une troisième, ouais. une troisième espèce.
N'empêche qu'on dit pas mot dièse quand même, hein.
C'est vrai. Il y a un échec du mot dièse qui est tout à fait
oui,
net.
Oui, ben, vous savez que c'est pas le dièse n'est pas la traduction de hashtag, de c'est hashtag. Croisillon.
C'est croisillon.
Bah, ah ben, voilà. Encore mieux.
Vous voyez, ça donne l'occasion d'ailleurs de voir les avantages de la langue anglaise. Il y en a. Nous, dans notre observatoire, on constate quand même qu'il y a des raisons pour lesquelles l'anglais est utilisé. D'abord, pour des tas de marques françaises qui veulent se donner le statut mondial.
International.
Et vous avez des très belles signatures. Je pense à Aigle, les vêtements de sport, disait pour la réintroduction de l'homme dans la nature.
Dans la nature.
Superbe signature. C'est devenu, la signature est bien, mais attendez, je me souviens, French but wild.
Ouais. Hein, oui.
Pourquoi ? Pour tout d'un coup affirmer le statut international et tout. Donc, la route avance, Cola, très grande entreprise de travaux publics, oui. qui pendant 20 ans a utilisé cette signature. Maintenant, c'est We Open the Way. Est-ce que c'est légitime ? Je ne sais pas. Il y a aussi des exemples où des marques françaises continuent à utiliser leur signature en français et puis utilisent l'outil,
une autre langue pour
l'international. Donc il y a quand même des pistes de réflexion pour à la fois utiliser l'anglais pour son développement et pas forcément imposer au public français la langue. Et puis il y a d'autres raisons.
Est-ce que c'est pas du coup aux concepteurs rédacteurs de faire preuve un peu plus d'imagination, d'innovation pour éviter qu'on se fasse trop envahir par l'anglais ?
Si, c'est à nous d'essayer. D'abord parce que l'anglais c'est plus difficile à comprendre quand on est. On va prendre la fameuse ménagère de 50 ans, qui est le cliché qui n'existe pas parce que je l'ai jamais rencontré. Mais c'est vrai que quand on arrive à s'exprimer en français, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Dès qu'on utilise l'anglais, c'est souvent pour aller vers l'international. Et voilà. Après, c'est vrai que on peut. Quand on est obligé d'utiliser un mot anglais, autant l'utiliser, sinon on risque de parfois
ridicule.
Un peu de tomber dans les comme
dans
nos
pub,
amis
quoi.
Québécois qui traduisent systématiquement tous les titres de films américains et qui font Rapide et Furieux pour Fast and Furious. Voilà. Et
comme dans la pub aussi que vous avez présentée donc en début d'émission. Merci beaucoup Jean-Luc Grenet. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sous le Logo, société de veille de signature des marques, et Benjamin Sagnal, concepteur rédacteur chez Publicis Conseil.
Pour vous accompagner dans votre communication commerciale, suivez votre chronique Solution Mailing avec La Poste Solution Business.
BFM Business, Hebdo.com, Solution Mailing.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Agnès Mossina. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing et e-business des Croisières Ponant. Alors, comment est-ce que le mailing s'inscrit dans votre stratégie de communication globale ?
Alors, Ponant, il faut savoir que c'est le leader mondial de la
croisière de luxe.
Expédition, absolument. Ouais. On emmène nos passagers là où les autres ne vont pas, grâce à une flotte de 5 navires, avec 7 en construction.
Ah oui.
Avec des navires, tous au design assez élégant, toujours à taille humaine, à peu près une centaine de cabines, un peu à l'opposé des navires qui sont récemment sortis de chantier et qui sont assez énormes.
Des navires de masse.
Absolument, c'est ça.
Alors, comment vous inscrivez justement le mailing dans votre stratégie de communication ?
Alors, moi, je parlerais plutôt d'un dispositif multicanal, et en l'occurrence, on va parler aujourd'hui d'une création de notre filiale australienne. L'idée, c'est que on est dans le luxe expérientiel et il faut immerger le futur passager dans ce qu'il va vivre à bord. On est aussi dans un marketing de l'offre. Il faut lui donner envie. Ouais. Il faut le projeter. Tout le monde ne se réveille pas un matin avec l'idée de faire une croisière. Et il faut expliquer en quoi c'est magique d'arriver vers les trésors de la terre par la mer. Et donc, ce mailing, il est composé d'une brochure que vous allez flasher, Vous arrivez sur le site web où on a un panorama de quelques centaines de photos à 360 degrés, dans lequel vous allez pouvoir naviguer à volonté dans des endroits aussi magiques que les Bouches de Kotor au Monténégro, un fjord en Nouvelle-Zélande. Et là, vous y êtes. Vous êtes dedans, vous êtes sur le Zodiac qui est en train de descendre de notre navire et qui va vous emmener à terre. Vous y êtes.
Comment est-ce que vous ciblez justement les destinataires de votre mailing pour ensuite être sûr quelque part qu'ils vont faire cette démarche d'aller flash coder et de se retrouver comme ça sur Internet au milieu de votre immersion?
Alors en l'occurrence, on est sur une cible de 5000 agences de voyage qui nous revendent déjà, notre base client et 5000 prospects qui ont été identifiés sur une analyse des signaux faibles en s'aidant de l'intelligence artificielle sur notre base de données.
Comment ça fonctionne?
Ça fonctionne très bien. Ça renforce notre positionnement de pionnier sur certaines destinations. C'est aussi une aide à la vente pour ces agences de voyage. Et on a aussi une vraie amélioration de la conversion, notamment sur la base prospect, puisqu'on les aide donc à se projeter.
Quels sont les qualificatifs que vous emploieriez pour qualifier votre opération mailing?
Un vrai succès, ça ouvre aussi une possibilité de les cibler aussi ces gens-là ultérieurement parce qu'on sait ce qu'ils ont apprécié comme destination, ce qui pourrait être leur prochain voyage.
Merci Agnès Mossina, directrice marketing et e-business des Croisières Ponant. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.